Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, le podcast France Télévisions, bien sûr. Le podcast des maternelles qui vient vous proposer cette petite séance de rattrapage si vous avez raté l'émission, le matin même, sur France 2, à 9h30. Aujourd'hui, sujet douloureux, comment devenir parent quand on a vécu un traumatisme pendant la grossesse? Comment vivre cette nouvelle parentalité, cette fin de grossesse, en ayant vécu un traumatisme? C'est le témoignage que vous allez entendre. Jessica qui est enceinte de 5 mois quand elle a perdu ses deux parents suite à un terrible accident. Donc bon, évidemment, un gros traumatisme. Vous allez entendre Jessica raconter tout cela à Agathe Le Caron, et puis nous serons juste après avec Hélène Romano, une psychologue qui a beaucoup écrit, beaucoup travaillé, beaucoup fait de recherches sur ces questions et qui nous donne de bons conseils. Donc, je pense, une émission qui peut aider pas mal de monde si vous êtes amené à vivre ce genre de choses pendant la grossesse. Donc, on écoute tout de suite Jessica.
Quel que soit votre âge, évidemment, perdre un de ses parents, c'est toujours une épreuve ultra douloureuse. Mais quand le décès survient pendant la grossesse, l'impact de cet événement peut s'avérer encore plus traumatique. Bonjour Jessica, merci d'être avec nous. Jessica, il faut énormément de courage pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Donc, surtout que ce n'était pas non plus il y a 20 ans, donc je sais qu'il vous en faut et je sais que vous témoignez aussi pour aider les personnes qui nous regardent et qui pourraient vivre le même genre de situation. Vous avez 26 ans. Vous habitez à Bourg-en-Bresse, vous êtes la maman d'Annie qui a 2 ans et pendant votre grossesse en 2019, votre monde s'est écroulé parce que vos deux parents ont perdu la vie dans un accident tragique. Vous êtes en couple depuis 10 ans avec Sébastien. À cause d'une endométriose, vous avez eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Pendant 3 ans, vous êtes passée par un parcours PMA et en juin 2019... le bonheur absolu, une grossesse se met en route et vous courez l'annoncer à vos parents qui habitaient tout près de chez vous, un petit quart d'heure.
Oui, c'est ça. Quand j'ai fait mon premier test de grossesse, j'ai tout de suite appelé mon chéri pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et ensuite, dans l'après-midi, je suis partie chez mes parents pour l'annoncer à ma maman. Donc, elle était très émue, elle avait les larmes aux yeux. Et 2 jours après, j'ai refait un test de grossesse qui était donc toujours positif. Et là, j'ai décidé de l'annoncer à mon papa, qui étaient très émus, ils attendaient vraiment cette grossesse avec impatience, ils avaient suivi notre parcours de près, et même s'ils étaient déjà grands-parents de ma sœur, ils voulaient vraiment mon bébé miracle.
Oui, vous, c'était une histoire particulière, parce que vous aviez eu des difficultés, vous étiez fusionnelle avec votre maman.
Oui, c'était ma meilleure amie, on n'avait pas de tabou, on faisait tout ensemble.
Alors, votre grossesse se passait très très bien, et puis à l'aube de votre deuxième trimestre, c'est une journée ordinaire qui démarre et cette journée, elle va virer au cauchemar.
Oui, c'est ça. C'était un dimanche. On avait prévu de partir sur Lyon voir ma belle-sœur qui venait d'accoucher d'une petite fille. Et enfin, dans la matinée, j'appelle ma maman en visio, on discute. Elle me dit qu'elle est un petit peu malade, qu'elle a une petite grippe. Mon papa prend part à la conversation. Il me dit « Oh, t'es belle, mange bien, tu t'arrondis. » Enfin, voilà. Et après, on se quitte, on se disait toujours « je t'aime, gros bisous » et on allait se rappeler voilà, après dans la journée. Donc on part sur Lyon et en fin d'après-midi, sur le chemin du retour, on passe pas très loin de chez eux. Donc je dis à mon chéri « je vais essayer de les joindre ». Donc j'essaye d'appeler 2-3 fois ma maman, elle répond pas. Donc je me dis « bon, bah, elle a plus de batterie, ça lui arrivait assez souvent ». Et bon, bah, je laisse couler et on rentre tranquillement à la maison.
Mmh. Donc vous, à ce moment-là, vous vous inquiétez pas, mais il y a un moment quand même où vous vous dites, ça fait un petit moment que j'aurais dû avoir de leurs nouvelles.
Bah c'est ça. À la maison, j'essaie de rappeler ma maman qui répond toujours pas. Et là, je me dis bon bah j'appelle mon papa. Mmh. Et mon papa répond pas et c'était pas son genre. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai appelé mon grand frère qui vivait au domicile familial à l'époque. Et il me dit bon, qu'ils étaient partis voir des amis à eux dans l'après-midi et qu'ils n'étaient pas rentrés.
Donc quand même, il y a une inquiétude. Et puis quelques minutes plus tard, c'est à la télévision que vous allez apprendre cet événement absolument atroce.
Oui, c'est ça. En fait, je sors de la salle de bain et j'aperçois mon chéri sur le canapé qui commence à siffoquer un petit peu, pris de panique. Donc, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Calme-toi. Et il m'assoit sur le canapé, il se lève tout de suite. Il dit, il faut que je te dise quelque chose, je sais pas comment faire. Il me dit qu'il y a eu un accident pas très loin et je crois que j'ai reconnu la voiture de tes parents.
Donc, c'était en plus sur la route de...
Oui, c'était leur trajet.
Entre chez leurs amis et chez eux.
C'est ça. Voilà, donc c'était là, leur trajet.
Sur le moment, vous y croyez ?
Bah, sur le coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, peut-être mon papa, oui, mais pas ma maman. Mm. Je me suis dit, non, elle est encore jeune. Non, pour moi, je me suis dit, OK, peut-être mon père est mort, mais pas ma mère.
Et puis, une fois que vous arrivez au domicile de vos parents, la terrible nouvelle a été confirmée.
Oui, c'est ça, à peu près vers 21h, on a les gendarmes qui nous ont rejoints au domicile familial. Et donc, ils nous annoncent que nos parents sont décédés. Donc là, c'est vraiment le monde qui s'écroule, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? C'est un accident de train, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, en passant sur un passage à niveau, le train a percuté l'arrière de la voiture. Donc, mes parents sont morts sur le coup. Ils ont eu le coup du lapin.
Comment ça se passe les jours qui suivent une nouvelle comme ça ? Surtout quand on attend un bébé ?
C'est très compliqué, en fait. On met la grossesse de côté. Pendant 2-3 jours, j'ai vraiment pas pensé à mon bébé. On avait tellement de choses à faire, voilà. Enfin, un accident avec un train, voilà, les assurances, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. On pensait plus à s'alimenter. Enfin, on avait tellement de choses à régler. Puis mes parents, ils avaient pas anticipé ce genre de choses, leurs obsèques. Donc, il a fallu vite enchaîner.
Oui, vous étiez dans l'administratif. Vous n'étiez pas seule, j'imagine. Vous avez votre
sœur, ma sœur et mes deux frères.
Vous avez deux frères en plus.
Oui, un grand et un petit.
Et votre chérie, heureusement. Parfois, vous étiez si jeunes, tous, oui. Toute cette fratrie. Vous attendez la vie, et puis après, il y a les obsèques. Donc tout à coup, vous êtes dans une ambiance, évidemment, qui est l'inverse de ce qui se passe dans votre corps. Comment est-ce que vous avez vécu ça ?
Déjà, le jour des obsèques, c'était le jour de mon échographie T2. On en parlait au téléphone avec ma maman. Elle attendait avec impatience de connaître le sexe du bébé. Mmh. Donc, j'ai appelé ma sage-femme, en fait, la veille. Et je lui ai expliqué, donc, pour l'accident, pour mes parents. Et je lui ai dit que je voulais faire l'échographie avant l'enterrement pour pouvoir leur glisser un petit mot avec eux, pour qu'ils savent que c'était un petit garçon, comment il allait s'appeler. Donc, c'était très important pour moi. J'ai réfléchi très vite, en fait.
Alors, après un tel traumatisme, comment est-ce que vous avez réussi, Jessica, à vivre la fin de votre grossesse sans votre maman ? Parce que même quand on n'est pas ultra fusionnel avec sa mère, on sait surtout pour un premier à quel point c'est important de l'avoir à côté de soi. Comment est-ce que vous avez réussi à tenir debout ?
C'était très compliqué. Il y a eu beaucoup de moments de solitude, de pleurs. Et je me raccrochais à mon petit bout, en fait. Je me disais que je n'avais pas le choix. Mmh. Je n'avais pas le droit, surtout, de baisser les bras. Parce que c'était leur bébé miracle. Et je pense qu'ils auraient voulu que ça se passe comme ça, que je tienne le coup, que je ne me mette pas en danger. Donc, je me disais, je vis pour mon petit bout.
Et le jour de l'accouchement, alors ? C'était le 21 mars 2020.
Alors, ça a été un accouchement un peu compliqué. Donc, quand on est arrivé à la maternité, j'ai demandé à mon chéri de leur envoyer un petit SMS. C'est quelque chose que je faisais souvent. Quand ça n'allait pas, j'envoyais un petit SMS à ma maman pour lui demander de m'aider à tenir le coup. Et donc là, je lui dis, t'envoies un petit message à mon papa et ma maman comme quoi on est arrivé en salle de travail, tout ça, que ça va être pour bientôt. Et après quelques heures de travail, je me sentais très fatiguée, je sentais que mon corps me lâchait un peu. Et on a fini en césarienne parce que le col ne s'ouvrait pas. Et quand ils ont retiré mon petit bout de mon ventre, je me suis sentie épuisée, comme un poids sur moi. Et je me suis dit, je vais mourir. Je vais mourir, je suis trop fatiguée. Suis trop fatiguée, j'avais froid, je claquais des dents. Je me suis dit, là je lâche tout, j'en peux plus.
Et le postpartum, alors, après tout ça, parce que généralement, déjà, quand on a vécu une grossesse où on n'a pas de traumatisme, c'est déjà en soi une période quand même très fragilisante. Comment est-ce que vous avez appréhendé ces jours qui ont suivi la césarienne ?
Alors, les jours qui ont suivi ont été assez compliqués parce que j'ai fait une complication de césarienne. Donc, j'ai fait beaucoup de fièvre et vu qu'on était en confinement Covid, on ne voulait pas de moi aux urgences. Et en fait, ma cicatrice a complètement lâché. Elle a lâché et pendant 2 mois, j'ai eu des soins tous les jours. Donc, c'était trop compliqué. Je n'arrivais pas à m'occuper de mon petit garçon. J'étais fatiguée. C'était assez dur, oui.
Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Comment est-ce que vous arrivez à faire exister les grands-parents de votre petit chou?
Eh ben, je lui parle souvent de mamie et de papé. On regarde beaucoup les photos, je lui raconte des anecdotes. Je lui dis, papé, il faisait ci, mamie, elle faisait ça. On va au cimetière, on apporte des fleurs pour la fête des grands-mères, la fête des pères, tout ça. Enfin, et il les reconnaît sur les photos, il me les montre, il leur fait des bisous.
Et ce que vous dites aussi, ce que vous avez dit en préparant cette émission, c'est qu'ils vous ont donné tellement d'amour, ça a été tellement intense, vous avez été une petite fille tellement heureuse avec ces parents-là. Que finalement, vous êtes remplie de ça, malgré le fait de avoir perdus jeunes.
Je me dis que j'ai perdu mes parents de bonheur, mais j'ai eu tellement d'amour, et ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et je me dis, tout l'amour qu'ils m'ont donné, ça va me suivre jusqu'au bout.
Et dès qu'on parle d'un sujet hyper gay, généralement, on invite Hélène Romano. Pauvre Hélène, c'est vrai qu'un jour, on va quand même essayer de vous inviter pour un sujet peut-être un peu plus joyeux. Mais bon, c'est pas notre faute. Vous êtes spécialisée dans la prise en charge des blessures psychiques et des traumatismes. Vous êtes psychothérapeute. Vous êtes bien connue. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le sujet du deuil, comme Accompagner le deuil en situation traumatique. C'est aux éditions Duno. Et c'est vraiment un outil très, très important si vous-même vivez ce genre de situation terrible. Qu'est-ce qui se joue de particulier quand on vit un traumatisme comme celui qu'a vécu Jessica alors qu'on porte la vie?
Plein de choses. Psychiquement, l'enjeu, ça va être de trouver un juste équilibre entre cette force de vie qui est le fait d'être enceinte et la mort qui est présente, le deuil, les multiples pertes qui ont lieu à ce moment-là. Et ce qui se joue, c'est ça, c'est cette capacité, cette possibilité à trouver cet équilibre pour ne pas s'effondrer. C'est souvent ce qu'on va appeler, nous, des deuils différés, c'est-à-dire que les mamans ou les papas, ça peut arriver aussi de perdre ses parents quand sa femme ou sa conjointe est enceinte, la souffrance du deuil, la peine, etc., c'est souvent 2-3 ans plus tard. Et les parents, dans ces cas-là, se sentent assez culpabilisés d'être tristes, de s'effondrer en disant « mais c'était il y a longtemps ». Non, non, c'est un deuil différé.
C'est ça.
Donc l'enjeu, il va être là, de gérer la temporalité, puis ce que vous disiez très bien, l'aspect paradoxal de porter la vie alors que la mort vient totalement tout exploser.
Oui, Justine Lévy en avait fait un très très beau livre, hein, Mauvaise fille, puisqu'elle a perdu sa maman quand elle était enceinte de sa première petite fille. Donc je vous invite aussi à lire ce livre qui parle bien de ce qu'une femme enceinte peut ressentir.
On se demande aussi souvent ce que nos enfants, dans notre ventre, quand on est enceinte, peuvent ressentir de nos traumas, de nos chagrins. On a reçu une question en vidéo pour vous qui va dans ce sens-là. C'est Adeline, regardez.
Salut la maison des maternelles. Durant le premier trimestre de ma grossesse, j'ai perdu mon père. Et ensuite, durant le deuxième trimestre, j'ai perdu ma grand-mère maternelle. J'aimerais savoir si ma fille, d'une façon ou d'une autre, a pu ressentir toute cette peine pendant la grossesse et si elle risque d'en souffrir dans un aspect de sa vie plus tard. Merci.
Et ça vaut pour tous les traumatismes, ouais. Évidemment. La culpabilité démarre dès qu'on est enceinte.
Ouais, des fois même avant. Oui, c'est un autre sujet. Oui, le stress impacte les bébés. On le sait, il y a eu beaucoup d'études qui ont permis de constater que le cortisol, hormone du stress, était plus présente chez les bébés à la naissance quand le contexte de grossesse avait été stressant. Des deuils, des pressions, des ruptures, des pressions au travail, des parcours migratoires, la guerre, enfin toutes ces choses extrêmement éprouvantes qu'on peut traverser, les bébés sont touchés. Donc oui à la première question, non à la seconde, c'est-à-dire qu'un enfant, il est impacté, il est sensible aux réactions d'une maman, une grossesse sereine, le bébé il sera plus serein. Une grossesse stressante, on sait que les bébés arrivent beaucoup plus stressés, angoissés. C'est tout l'après qui va être important. Donc, il n'est pas traumatisé à vie, il n'est pas marqué à vie.
C'est pas figé.
C'est pas figé, d'où l'accompagnement de la maman et du papa ou de l'autre maman pour les couples monoparentaux.
Orna nous envoie, j'ai perdu mon père à 8 mois de grossesse alors que j'attendais un petit garçon. J'ai fait un transfert bizarre entre les deux. J'étais comme sidérée pendant mon accouchement et le postpartum. Comment l'expliquer?
Alors, ça peut s'expliquer par des réactions, ce qu'on appellera, nous, de troubles de stress post-traumatique, où il y a une collusion entre la mort du père, hein, du grand-père du petit, et le fait de donner la vie, et à un moment donné, de sentir très coupable de donner la vie, alors que son propre père est mort. Donc, l'identification projective sur le bébé, le fait de projeter sur son bébé une image de son propre père qui vient de mourir, peut permettre, mais c'est très inconscient, de gérer la culpabilité de donner la mort, comme si on était fautif de donner la mort, de donner la vie, le lapsus, vous voyez, de donner la vie alors qu'on pense donner la mort. Donc il y a aussi souvent des mamans, et le lapsus n'est pas anodin, qui vont avoir beaucoup de mal à investir ce bébé-là, parce qu'elles se sentent trop coupables. Et elles n'arrivent pas à donner la vie, du coup, elles ont l'impression de donner la mort. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très fort à prendre en compte, à repérer, à ne pas banaliser et inciter les mamans à en parler, parce que c'est des choses assez fréquentes.
Là, elle dit « j'étais comme sidérée », c'est pas une manière de se protéger aussi, le cerveau qui va...
C'est ça, c'est un court-circuitage psychique qui fait que face à cette culpabilité trop envahissante, c'est inconscient, on ne fait pas exprès, le cerveau nous protège d'une certaine façon, on est paralysé, sidéré, en conduite automatique, on accouche sans plaisir,
on
sans l'émotion.
Un peu des
on se déconnecte de la réalité, on se déconnecte des émotions, tout à fait. Et du coup, ça permet d'accoucher quand même, mais ça peut, c'est pas que ça va, ça peut créer des troubles dans les liens d'attachement avec le bébé.
Maïmouna dit, j'ai perdu ma maman à 7 mois de grossesse. J'ai eu un accouchement très difficile et éprouvant ensuite. Le deuil peut-il rendre l'accouchement plus éprouvant psychologiquement et médicalement parlant ?
Alors oui, c'est des choses qu'on constate. Il n'y a pas d'études sur le sujet parce que la question du deuil périnatal, c'est vraiment très tabou. Ça dérange beaucoup les professionnels. Donc on en parle assez peu. Mais entre professionnels, thérapeutes, chercheurs, c'est quelque chose qui nous est souvent relayé par les sages-femmes. C'est pas systématique, mais ça arrive assez fréquemment, probablement en raison de ce processus psychique qui est, voilà, j'accouche, je donne la vie, mais en même temps, mon parent est mort pendant ma grossesse, je me sens très coupable de ça, et du coup, l'accouchement est plus compliqué déjà. Je suis plus stressée, je suis plus angoissée, et on a souvent des accouchements plus difficiles dans le ressenti de la maman, mais pas toujours du côté des professionnels de santé. C'est aussi important. Des fois, c'est le ressenti de la maman, des fois, c'est une réalité médicale, mais des fois, c'est le ressenti.
Alors Nina vous dit, j'étais très proche de mes parents, ils sont décédés pendant ma grossesse, comment les faire exister auprès de mon fils qui va avoir 2 ans ?
Un petit peu comme notre témoin, en en parlant le plus naturellement possible. S'il y a l'émotion, il ne faut pas avoir peur si on pleure et si on est triste. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans votre émission, mais ce n'est pas le fait d'avoir un parent qui est triste, qui pleure, qui va être traumatisant pour l'enfant, c'est le fait de laisser seul face à ses larmes. Si la maman pleure en parlant de ses propres parents qui sont décédés, dire même à son petit bébé, le dire, ça permet de rester disponible psychiquement. Tu vois, je suis triste parce que mon papa, ma maman, papy, mamie, ils ne sont plus là, mais ce n'est pas à cause de toi. Et le fait de mettre des mots sur ses émotions permet d'en avoir le contrôle. On peut ritualiser, aller au cimetière, ce n'est pas du tout traumatique pour un enfant. Le deuil, la mise en mémoire, c'est ça qui permet de faire exister dans nos cœurs, dans nos vies, ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont décédés. Donc ça peut être aussi important.
Vous avez vu le film Coco, enfin le dessin animé Coco, qui est formidable. Dans la culture mexicaine, la manière dont on célèbre et qu'on fête les anciens, les ancêtres.
Ils font partie de la vie. Il y a des parents qui font des petits albums photos. Ce qui aidera l'enfant, c'est qu'il n'y ait pas de non-dit.
Cette question d'Arthur qui nous dit « Ma femme a perdu ses parents à 6 mois de grossesse, notre petite fille a maintenant 4 mois et je sens qu'elle rejette un peu notre enfant. Comment lui venir en aide ?» Là aussi, j'imagine qu'on n'est pas dans... ça doit être hyper culpabilisant, mais ça doit être fréquent dans ces situations-là.
C'est assez fréquent, c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que souvent, les mamans qui ressentent cette difficulté à investir leur bébé suite à un décès, quand elles essayent de solliciter des professionnels, déjà elles ont souvent beaucoup de gêne à le faire, et puis certaines fois on essaie d'être rassurant, c'est pas grave, c'est normal, etc. Oui, c'est adapté, c'est très classique, mais c'est important d'en parler. Mmh. Et souvent dans ces situations-là, le fait de parler du décès à son enfant, à sa petite fille, d'expliquer pourquoi elle est triste de façon assez étonnante, mais très apaisante. Ça permet de limiter les troubles chez le bébé. Mettre des mots, ça permet de redevenir disponible psychiquement. Le bébé, il ne va pas comprendre comme un ado, mais maman, en me parlant, elle va redevenir ma maman. Ça, c'est ça qui est fondamental.
Même dès l'âge de 4 mois, il ne faudrait pas se dire qu'il est trop petit.
Même enceinte, on peut parler à son bébé en lui disant, voilà, je suis très triste, mon papa, ma maman viennent de mourir, tu ne connaîtras pas ton papi et ta mamie, mais je suis là. Mettre des mots, on sait que c'est ça qui est très aidant.
Gwen vous demande si, quand le deuil survient pendant la grossesse, ça augmente le risque de faire une dépression de postpartum.
Alors, ça accentue le risque ou augmente le risque de faire ce qu'on appelle, nous, des deuils traumatiques. C'est-à-dire, le deuil, ce n'est pas une pathologie, c'est important de le rappeler, mais il y a 4% de deuils qui vont faire que ça va être difficile. Donc, une femme, un homme qui est triste après un décès, surtout de gens proches, hein, le deuil, c'est la réaction face à la perte, c'est plutôt adapté. C'est, ce qui n'est pas adapté, c'est de faire comme si de rien n'était. Donc, quand on est enceinte, quand on a ces collusions de psychique entre un moment de vie et puis un moment de détresse absolue, comme la perte d'un parent, on peut avoir des deuils compliqués, des deuils qui vont être soit vraiment bloqués dans une phase très dépressive, soit des deuils où les gens donnent l'impression de s'en moquer royalement, et souvent, ça décompense plus tard. C'est ce qu'on appelle des deuils traumatiques et des complications du deuil. C'est pour ça qu'il faut être vigilant.
Anna, vous avez dû en accompagner pas mal, vous, des futures mères, futurs pères aussi.
Oui, beaucoup, beaucoup. Effectivement, ça fait partie de notre pratique quotidienne. Et,
vous avez un rôle de psy aussi, non, les sages-femmes?
En tout cas, c'est vrai qu'au moment de l'accouchement, j'y pense, parce que pendant la grossesse, bon, ça nous arrive, mais c'est vrai qu'au moment de la rencontre, surtout, je pense comme ça à des femmes qui ont perdu leur père et elles
un petit garçon dans les bras.
Un petit garçon. Effectivement, il y a des scènes bouleversantes. J'en ai plusieurs en tête, des scènes effectivement bouleversantes. Mmh.
Vous avez une formation, les sages-femmes ont une formation?
Oui,
cet accompagnement-là.
Bien sûr.
Cet accompagnement-là.
Oui.
Cette question d'Audrey. Durant ma grossesse, j'ai refoulé totalement le deuil comme pour protéger mon enfant. J'appréhende qu'il me demande où sont tes parents, sachant qu'il a encore ses grands-parents paternels. Que lui répondre?
Lui répondre en lui disant qu'il a des grands-parents, parce qu'ils ne sont plus là, ils ne sont pas là, ils vont revenir. Papy, alors, les nommer, ça c'est important. Les nommer, même si ils n'ont jamais connu leurs grands-parents, même si vos propres parents décédés n'avaient jamais été grands-parents, vous choisissez de les nommer papy, mamie, pépé, mémé, vous choisissez un petit nom, même s'ils n'avaient pas, parce que quand vous perdez vos parents qui étaient déjà grands-parents, ils avaient déjà un petit nom, papy, mamie, ou pépé, mémé, je ne sais pas, ou autre. Mais là, il faut l'inventer, c'est aussi important, de les nommer. Ton papy, ta mamie, mon papa, ma maman, ils sont morts pendant que j'étais enceinte. Ils ne sont pas morts à cause de toi. Ça, c'est très important aussi à dire, parce que beaucoup d'enfants, en grandissant, quand ils savent que les grands-parents sont décédés pendant la grossesse, peuvent penser que c'est de leur faute. Alors, ça fait partie des théories, on en parlait tout à l'heure. Agathe disait, c'est important de dire aux enfants, sinon les théories, c'est pire que tout. Oui, ça fait partie des théories des enfants que les grands-parents sont morts à cause d'eux. Donc, c'est très important que le parent puisse les nommer papy, mamie, et ils sont morts dans un accident de voiture parce qu'ils étaient malades, parce qu'il y a eu ça. Ils ne sont pas morts à cause de toi. Donc, on en parle le plus naturellement possible. Et le conjoint ou la conjointe est très, très, très précieux à ce moment-là, des fratries, quand il y a des tantes, des oncles, aussi pour accompagner le parent qui est endeuillé, qui est souvent assez perdu dans ce qu'il peut dire ou pas dire. En tout cas, souvent, on a tendance à penser que parler de la mort à un enfant, ça va le traumatiser, ça va être pire que tout. Ce que l'on sait dans les études, c'est que de ne pas en parler, c'est pire que tout.
Mais alors, du coup, comment ? Parce que selon l'âge, c'est vrai que ce n'est pas évident. Là, on a deux questions, une de Paola, une de Coralie. Un enfant de 6 ans, un enfant de 2 ans, qu'est-ce qu'on peut leur dire quand on sait qu'un de nos parents est malade et que ça va arriver?
Alors, on va ajuster les mots, mais le dire, c'est important quand même. On a beaucoup tendance à entendre des gens dire « De toute façon, il est trop petit, il ne va rien comprendre, ça ne sert à rien de lui en parler. » Mais un petit, il voit que les adultes sont bouleversés, il voit que les adultes sont tristes, il voit que papa, maman passent leur temps à l'hôpital, etc. Donc, en ajustant le vocabulaire, c'est important si c'est le cas d'un grand-parent qui risque de décéder d'une maladie. Oui. Papy, mamie a une maladie, on donne le nom de la maladie. Sinon, la prochaine fois qu'il mouche, il va croire qu'il va mourir.
D'accord.
Il a un cancer, par exemple. Il a de nommer la maladie, c'est très important. Oui. Il est malade. La prochaine fois que je mouche, je vais mourir pareil.
Oui, c'est vrai, en fait.
Parce qu'à cet âge-là, il y a la notion de contamination. Donc, si papy meurt, je vais mourir. Donc, c'est important de nommer de quoi il est malade. S'il y a une mort annoncée, probablement qu'il y a une maladie grave, et d'expliquer que ce n'est pas de la faute à l'enfant qu'il soit malade, en ajustant selon l'âge. Ce qui va surtout changer selon les âges, c'est après le décès. Très souvent, les tout-petits pensent que c'est à cause d'eux que la personne est morte, d'où l'importance de le reprendre avant et après. Et un tout-petit, il ne pense pas que la mort, c'est pour toujours.
C'est ça.
Donc, papy va revenir. Donc, quand je vais faire ma lettre au Père Noël, tu lui demandes ce que tu veux. Que papy revienne. Ah non, pas tout à fait ce que tu veux. Peut pas tout. Il y a cette notion de la mort, c'est pour toujours. On va tous mourir le plus tard possible, mais c'est la réalité de la vie. C'est pas...
ça y est.
Non, non, mais...
Et là, tous les angoissés.
Du bois. Mais le fait d'en parler, c'est important parce que on l'a vu au moment de la Covid, on a tendance à vivre dans un monde un peu... On avait tendance à vivre dans un monde un petit peu bisounours. La guerre en Ukraine, la Covid nous a montré que...
Là, nos,
voilà,
enfants,
Nos enfants, ils ont... En parler, c'est ça qui permet de les protéger aussi psychiquement en leur donnant d'autres ressources. Donc on adapte, on ajuste. Avant 8-9 ans, ils ne savent pas que c'est pour toujours, ils ne savent pas que c'est universel, ils ont très peur que ça s'attrape. Donc on ajuste notre vocabulaire.
Ce qui était terrible avec le Covid, c'est qu'à la fois, ils voyaient les aînés et beaucoup de gens qui mouraient, etc. Et d'un autre côté, leur dire si toi, tu attrapes le Covid, essayer de les rassurer et qu'ils comprennent que c'était la même maladie, certes, mais que ça n'allait pas tuer tout le monde. Il fallait. Oui. Quand vous dites un cancer et le nez qui coule, c'est pas la même chose, mais là, le Covid, c'était le même mot.
Oui,
c'était le même mot, mais d'où l'importance aussi de leur expliquer que le virus, c'est un virus, de leur montrer les images du virus. Alors, les images, elles sont comme ça, leur dire que c'est tout petit. Ouais. C'est ça aussi.
Oui, hein, c'est ça.
Vrai, ça fait peur, on imprime les images du virus pour le colorier, et comme ça. Dans la vraie vie, c'est comme les pouces, ça leur parle bien aux enfants.
Ouais. C'est
nous aussi.
C'est plus petit qu'un pouls. Ouais.
Non, mais il faut leur donner des références qu'ils connaissent.
Plus petit qu'un pouls, mais ça fait encore plus...
Voilà, ça peut faire des dégâts très, très graves. Et ça fait plus de dégâts chez les personnes qui sont très âgées, qui sont vieilles, et beaucoup moins chez les enfants. Mais il faut aussi se protéger pour éviter ce qu'on a entendu aussi au début de la pandémie, que des grands-parents étaient malades à cause des enfants. Les petits ont vraiment cru qu'ils étaient responsables, certaines fois, de la mort d'un parent ou d'un grand-parent.
Il faut dire que beaucoup de personnes répétaient ça, que les enfants étaient les principaux transmetteurs, ce qui était faux.
Ce qui est faux. Ouais,
ça, ce qui était faux. Et puis, il ne fallait pas le dire.
Ça a été très violent. Moi, j'ai accompagné beaucoup d'enfants endeuillés, enfin, un certain nombre d'enfants endeuillés qui ont perdu leur papa. Des jeunes hommes et des professionnels qui ont dit « c'est forcément votre enfant qui est responsable de la mort ». Et ça, c'est redoutable. Donc, il faut aussi être prudent et quand on n'a pas de certitude. Et même si c'était le cas, être extrêmement prudent parce que l'enfant, il va vivre
même
avec
si
ça.
C'est l'enfant qui a refilé le Covid à son père, ce n'est pas lui le responsable.
C'est le virus qui est responsable.
Mais bien sûr.
Bien penser à toujours faire ce tiers-là, qu'on oublie certaines fois de faire parce qu'on est pris par l'émotion. Je pense que les gens, ils font ce qu'ils peuvent dans des contextes très stressants et leur donner un repère de bien prendre le temps de réfléchir.
De dire c'est le petit qui me l'a filé ou qui lui a filé, c'est comme si c'était intentionnel. Quoi.
Mais ça a été beaucoup dit. Hein. Moi, j'ai eu pas mal d'enfants orphelins suite à la Covid. Ça les a profondément marqués, ça. Il faut le reprendre en disant non, c'est le virus qui a tué, c'est pas toi. Bien sûr. Si papy meurt d'autre chose ou mamie meurt alors que je suis petit, c'est pas de ton fait, c'est pas à cause de toi. Parce que souvent, ils vont théoriser pour donner du sens à des choses qui n'en ont pas.
Cindy vous dit, quand on est enceinte de 8 mois, est-ce qu'il faut se rendre à l'enterrement ou est-ce que ça va être trop difficile pour la mère ou le bébé ?
Il n'y a pas de « il faut pas ». Essayer de s'écouter soi-même. Si la maman a envie d'y aller, on sait que c'est important qu'elle puisse y aller et que si on lui interdit d'y aller, ça va être hautement dommageable. Si elle ne veut pas y aller, elle n'y va pas. Mais ce qui peut être important, c'est d'être représentée. C'est-à-dire, ça peut être une photo, une bougie, une petite lettre mise dans le cercueil, une intention dite s'il y a un hommage collectif, une cérémonie qui soit religieuse ou non, qu'on soit représenté. Ça, c'est important, mais on ne s'oblige pas.
Merci beaucoup à Hélène Romano, merci à Jessica d'être venues toutes les deux dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve demain sur France 2, 9h30, quand vous voulez sur les réseaux sociaux en attendant. N'hésitez pas d'ailleurs à parler de ce podcast autour de vous, ça pourrait peut-être aider certaines personnes. Et puis on se retrouve quand vous le souhaitez en podcast. Ciao tout le monde.